joie de ça. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager sur une partie du retour du Seigneur. On va prendre un texte qu'on connaît assez bien, c'est un texte qu'on a l'habitude de lire pour la cantine. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23-32. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il vivait, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soufflé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se trouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. En lisant ce texte, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais peut-être parfois dur. Et moi, j'ai voulu retenir trois moments forts dans ce texte. Il y a le souvenir du Seigneur. Il y a son retour et le fait que chacun a une responsabilité et de s'examiner soi-même. Le souvenir du Seigneur, moi, j'ai pensé tout ça à la croix, à l'œuvre de la croix. Parce que la croix, c'est là que se trouve la victoire. On va lire deux textes. Le premier texte, c'est dans Isaïe 53. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes. Dans 2 Corinthiens 5:21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Si on se pense sur le plan de la, si on se place sur le plan de la logique humaine, la croix est un échec total. Il est mort. Souvenez-vous de ce que les gens lui disent. Là, sauve-toi toi-même. La vision humaine est là. Ceux qui l'ont suivi l'ont abandonné. Combien étaient avec lui à ce moment-là? Il a été humilié, il est venu sauver le monde, mais il a été rejeté. Il est venu apporter son amour, l'amour de Dieu au monde. Il a été rejeté. C'est la vision qu'on peut avoir. Si on ne reçoit pas la révélation qu'au-delà de la mort de Jésus, il y a la résurrection. Il y a la victoire. Si on considère simplement ce que nous pouvons vivre, si nous nous arrêtons au rejet qu'on peut avoir subi, nous pouvons penser à certains moments que nos vies ne valent pas la peine. Nous pouvons penser que nos dernières années sont simplement un échec. Nous pouvons peut-être regarder autour de nous et nous dire, mais lui, sa vie, elle est foutue, elle est un échec total. La croix, c'est une malédiction. La parole le dit, vous dites, celui qui meurt à ta bois, Jésus est mort sur la croix, mais à la croix, il a porté les têtes malédictions pour que ta malédiction soit enlevée dans le nom de Jésus. Vous savez, pour ceux qui viennent des tropiques, la malédiction, ce n'est pas simplement le sort qu'on peut jeter à quelqu'un. Ce sont des paroles de condamnation qu'on peut prononcer sur quelqu'un. Et ce matin, je me dis, Seigneur, au travers de ce que tu as vécu la croix, ce matin, tu es encore capable de délivrer celui qui se sent en situation d'échec. Tu es capable de guérir celui qui a été rejeté. Tu es capable de briser la malédiction que tu as brisée à la croix. Simplement, il s'agit de lever nos yeux et regarder à celui qui peut le faire. Il s'agit de regarder cette croix comme victoire totale sur Satan. Regardez cette croix comme victoire totale sur le péché. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, et tu reviens au Seigneur de tout ton cœur, il te prend et il te gagne. Son désir ce matin, c'est que, comme un seul homme, que nous puissions être là, prier, intercéder pour ceux qui ne sont pas simplement bien dans leur peau, ceux qui se sentent dépassés par. Parce que nous vivons. Je me dis, Seigneur, cette victoire, tu n'en avais pas besoin, elle est pour nous. Elle est pour l'Église. Alors, j'aimerais simplement prendre un petit temps pour prier, pour prier ensemble, pour ceux qui ne sont pas bien aujourd'hui, qui sont peut-être malades dans leur corps, qui souffrent intérieurement. Ils se disent, je n'arrive pas. Tout porte une main des fardeaux qui sont lourds à porter. Mais Jésus les a portés à ta place. Jésus les a portés pour que tu puisses marcher, que tu puisses te redresser, que tu puisses avancer, que tu puisses saisir l'importance de la croix. Vous savez, quand on est fatigué, quand on est chargé, on peut perdre de vue l'essentiel. J'aimerais simplement qu'on prenne un petit temps, qu'on prie ensemble, unis de même cœur, pour que le Seigneur puisse délivrer, pour que le Seigneur puisse agir, pour que le Seigneur puisse aussi, pour ceux qui sont en contact avec des personnes dans cette situation, que le Seigneur puisse nous apporter la parole qu'il faut, la parole de discernement, la parole d'autorité, la parole de délivrance. Bénissons pour Dieu. Tu es venu, Seigneur, pour briser l'œuvre du diable. Tu es venu pour nous réconcilier avec le Père. Seigneur, ce matin, tu connais les situations, les différentes situations. Tout est devant ta face. Mais Seigneur, nous te prions par ton esprit, tu es là. Pour moi, c'est une certitude. Et par ton esprit, Seigneur, passe en avant et accomplis, Seigneur, cette œuvre de délivrance, cette œuvre, oui, Seigneur, de résolution. Que ce soit pour les fatigués, ceux qui sont désespérés, ceux qui disent, je n'en peux plus, ceux qui disent, je n'en sortirai pas, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui se sentent rejetés. Seigneur, toi, tu l'as vécu à la croix. Et Seigneur, tu en es sorti vainqueur. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Afin que nous puissions vivre, Seigneur, la liberté en toi.
accomplir, Seigneur, la guérison en toi. Que ton Église, Seigneur, puisse être ce lieu où ceux qui n'en peuvent plus viennent et te rencontrent, viennent se justifier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce beau nom, comme l'avons chanté. Ce nom qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons nommer. Ce nom dans lequel nous avons. Deuxième point, c'est demeurer dans l'attente du retour du Seigneur. On parle souvent du retour du Seigneur, et parfois, on oublie qu'il va venir. Ça fait 2000 ans qu'on en parle. Il va revenir, il reviendra. Dans Jean 14, 3, voici ce que nous dit le Seigneur. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Il y a quelques années, je crois 3 ans, 4 ans, il y a David Mercier qui nous avait partagé sur les fiançailles juives, où l'homme venait se fiancer, quand il était fiancé, il repartait préparer tout ce qu'il fallait pour que le jour du mariage, tout s'emprunt pour sa bien-aimée. Est-ce que nous aspirons vraiment au retour du Seigneur? Imaginez-vous aujourd'hui deux jeunes, un garçon et une fille qui sont fiancés. Pour une raison ou pour une autre, le garçon s'en va justement pour préparer l'avenir. Essayez de regarder combien de SMS se partagent dans la journée. Regardez les consommations téléphoniques. Est-ce que nous vivons la même chose avec le Seigneur? Est-ce que nous désirons Seigneur, quand est-ce que tu reviens? C'est pas tout le temps qu'il y a des problèmes. Si le Seigneur revient vite comme ça, tous mes problèmes sont réglés. Mais est-ce que nous espérons réellement au retour de cela? Est-ce que chaque jour qui passe, je me dis, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu vas venir? Seigneur, je soupire après toi, Seigneur, j'ai envie de vivre dans ta présence. C'est le rôle de l'Église de dire Seigneur. Seigneur, viens chercher ton épouse, je cherche. Est-ce que mon cœur va à 100% pour le Seigneur? Moi, j'aime bien cette image de la fiancée parce que j'ai souvent l'impression que quand le Seigneur veut parler d'un amour, quand le Seigneur lui prend toujours les formes en exemple. Et je me dis, une fille, quand elle aime, waouh, c'est juste impressionnant. Est-ce que nous aimons tout autant le Seigneur? Est-ce que le temps qui passe ne vient pas peut-être nous donner d'être plus sage dans notre voix, dans notre foi, mais que ce temps-là aussi ne vient pas nous causer une certaine tiédeur. Le Seigneur nous en parle. Il y a ce risque-là qui nous guette. C'est le phénomène du temps qui passe. Chercher ce cœur à cœur avec le Seigneur, justement pour préparer son retour. Parfois, on se fait des idées, on se dit, ah, c'est bien, quand on lit l'Apocalypse, c'est à ton peur. S'il revient, qu'est-ce qui va se passer où vous serez? cœur n'est pas de notre côté. En tout cas, elle ne doit pas être de notre côté. Si le Seigneur dit, c'est pour la récompense, pour son église, la récompense. Mais c'est terrible pour ceux qui se perdent. Est-ce que j'ai vraiment à cœur de vivre ces choses-là? Vous savez, il y a quelques... C'était jeudi le 22. J'étais vraiment fatigué, j'ai essayé de faire une arrêt. Je n'arrive plus à préparer, à terminer le texte du message. Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Il y a tellement de travail, je ne sais plus où mettre la tête. Et je m'en prêtais à envoyer un mail à l'épée en disant, voilà, est-ce que quelqu'un peut me remplacer parce que là, je n'arriverai pas. Justement, j'étais en train de préparer un message pour l'avant. Et d'un collègue à côté de moi, qui m'appelle, qui me dit, au fait, est-ce qu'on est quel jour? Et donc, je lui dis, tu as la date sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Il dit, non, mais je lui dis, mais je pense qu'on est en début de semaine. Il me dit, tu sais, Thierry, la fin du monde est proche. Je le regarde, je lui dis, quoi? Il me dit, non, je t'assure, la fin du monde est proche. C'est pas un chrétien. Alors, il me dit, ok. À ce moment-là, intérieurement, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et le lendemain, j'allais au travail, et il y avait Nicolas Hulot qui était passé, je crois, sur France 2 la veille. Il y a des journalistes qui discutaient entre eux, et puis un qui disait, à moi, ce que je retiens, c'est que Nicolas Hulot nous a parlé plus tôt de la fin du monde. Je me dis, mais en tant que chrétien, comment est-ce qu'on me parle de la fin du monde? Ça veut dire que le Seigneur est proche. Donc je dois me réjouir. Je reste dans mon interrogation. Et donc le week-end dernier, on était à Tours. Il y a une jeune de l'église, voir ma belle-sœur et son mari, qui vient, qui dit, alors Thierry, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Est-ce que tu pêches encore? Oui, je prends justement pour moi ce prochain. Elle me dit, mais est-ce que tu parles de retour du Seigneur? Alors je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose que nous devons saisir. Le 1er week-end de novembre, j'étais dans ma chambre. Très bien, le moment où vous êtes malheureux, vous avez une paix. J'ai écouté la parole, j'ai l'impression que tout pouvait tomber autour de moi. Il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à un moment donné, il y a une question qui est venue à mon esprit. Et si tu partais maintenant? Entre la joie et la paix que j'avais, je suis parti à une tristesse énorme. Je me suis dit, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, je pars maintenant, ça veut dire que je ne verrai pas mon dernier fils arriver à sa jeunesse. Je ne verrai pas ma petite fille grandir. Et tu dis, mais j'ai des trois ans de vie, c'est-à-dire que je ne verrai même pas. C'était terrible. Mais je vais réaliser juste une chose. Ce ne sont pas forcément des choses qui préoccupent mon esprit, non. Mais ce sont des choses qui sont en position très haute dans mon cœur. Il faut qu'au moment, à ce moment-là, je vais dire, ah, Seigneur, super, je suis dans la paix, alléluia, je peux partir maintenant, c'est pas grave, tu vas te passer derrière moi, tu prends soin. Oui, il y a cette tristesse. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à dire simplement, quel que soit le moment. Rien ici-bas, Seigneur, ne me retient. Mais c'est ta présence, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est insouciant. Ça veut simplement dire que nous faisons suffisamment confiance au Seigneur pour que si je serai là, qu'il soit là ou pas là, le plus important pour ma famille, pour ma descendance, c'est qu'ils connaissent le Seigneur. Si Eric un jour ne serait plus là, bon, mes enfants n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est une réalité. Mais si tu arrivais à dire, Seigneur, c'est quand tu veux, ton Église, quel est notre état d'esprit? Quelle est notre situation là, maintenant? Moi, j'aime bien ça. Les trompettes qui sont là. Et ce qui est là. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est plus l'avantage qu'on a lorsqu'on prépare une prédication, c'est que ça même on a été appelé. Oui, le Seigneur, il va revenir de manière certaine. De manière certaine, l'Église aspire-t-elle à rencontrer ton Seigneur? Où est-ce que tu places tes projets? À quel niveau places-tu tes projets? Dans Matthieu 24, 29 à 31, c'est le Seigneur qui parle, et on le dira aussi de 36 à 39. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son de trompettes et éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. 36. Quand au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque précédant le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Dans la liturgie des églises du premier siècle, quand on avait lu le texte de la Sainte Cène, on le terminait par, vous savez, Maranatha. Viens, Seigneur. Le Seigneur ne reviendra plus en nourrisson. Le Seigneur reviendra dans sa gloire. Le texte nous dit que tous les yeux le verront. Mais en même temps, quand il revient, il ne vient plus pour être serviteur. Il vient pour régner. Mais pour ceux qui le connaissent, quel bonheur, quel grand jour. Pour ceux qui l'ont rejeté, c'est là le désastre. Encore une fois, nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir peur à redouter le retour du Seigneur. Sauf si nous avons des raisons d'en douter. J'imagine simplement une scène. Alors, je ne vais pas prendre le temps en France. La reine Elisabeth lance une invitation. Vous recevez une invitation. Quel jour, je ne sais pas, mais soyez juste prêt. Vous irez découvrir le palais de Buckingham, où vous dînerez avec elle. Voilà. Mais si vraiment vous avez envie d'y aller, vous serez prêt tous les jours. Vous serez prêt tous les jours parce que c'est un beau projet de prendre, de faire des selfies avec la reine. C'est un gros projet de manger à la table de la reine. Mais c'est une simple mortelle. C'est une simple mortelle. C'est ce projet que le Seigneur a lancé à l'humanité. Sois prêt. Le jour où je reviendrai, je te prendrai avec moi. Là où je serai, tu seras avec moi. Frères et sœurs, pourquoi? Vous savez, j'écoutais un enseignement qui disait le retour du Seigneur dans la Bible, vous savez combien de fois on en parle? À peu près? Plus de 800 fois. Plus de 800 fois. Ça veut dire que c'est un sujet important. Si c'est important pour Dieu, ça devrait l'être aussi pour nous. Toute la vie que nous menons sur la terre, quel est notre objectif? Quelle est la destination vers laquelle nous allons? Quand vous allez au loin, votre voyage, vous le préparez. Vous prenez toutes les précautions. Vous allez aux États-Unis, par exemple, si vous avez des négligents, vous serez refoulé à la frontière américaine. Votre billet d'avion, vous l'aurez perdu. Encore une fois, nous parlons de l'éternité. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons de vivre, je dirais, enfin avec le Seigneur. Dans la présence physique, aujourd'hui, sa présence est spirituelle, mais enfin dans la présence physique de Dieu. Je me dis, Seigneur, donne à ton Église, donne-moi d'être le premier. Donne-moi d'être là où tu veux que je sois. Donne-moi, Seigneur, d'être le serviteur fidèle, obéissant, parce que toi tu veux. Dieu a des projets pour chacun. Tu as des projets pour chacun de ses enfants. Tu as des projets de paix. C'est mieux que tous les projets que nous pouvons imaginer. Mais est-ce que nous le faisons suffisamment confiance au Seigneur? Voilà, je te fais confiance. Peu importe, Seigneur, ce qui peut m'arriver, je t'appartiens. La seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. La seule chose qui peut nous séparer de Dieu. Et le Seigneur a réglé le problème du péché à la croix. Donc, c'est à nous simplement d'entrer dans ce plan parfait que Dieu a déjà prévu. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour nous révéler encore de jour en jour qui est Jésus. C'est de vivre pleinement. C'est de vivre la présence du Seigneur. C'est de vivre cette présence qui transforme mon cœur jour après jour. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de moi, je me dis, Seigneur, oh, tu as encore du travail à faire avec moi. C'est vrai. Et je le bénis parce qu'il est patient. Répondre simplement à cet amour-là. Cet amour qui a mené Jésus à la croix. Ce n'est pas la peur, non. Ce n'est pas la peur. Quelqu'un qui t'a aimé à ce point. Quelqu'un qui a donné tout ce qu'il pouvait pour toi. Comment ne répondrais-tu pas à son amour? Sa gloire, il l'a mise de côté. Lui qui n'a jamais péché, il a été fait péché. Pour que toi, tu sois réconcilié avec le Dieu 3 fois 5. Il y a des mots de Seigneur, on ne sait pas ce que ça veut dire. Le Dieu 3 fois 5. Mais Jésus, écoute ce matin, si ça sonne, en un instant, tu puisses partir. En un instant. Il y a un moment, je me demandais, il y a quelques années en arrière, je disais, Seigneur, comment ça peut se passer? On va argumenter, Seigneur, tu vois, voilà, il y a telle circonstance. Mais après, quand on lit l'Apocalypse, Jean, qui était pourtant, qui connaissait très très bien Jésus, quand il l'a vu, ce n'était plus le même Jésus. Hein. Dans sa gloire, il est tombé comme mort. C'est cette dimension-là. Nous ne sommes pas appelés à vivre des vies tristes. Le chrétien est appelé à être joyeux. Soyez toujours joyeux, et joyeux en Jésus. Vous savez, voilà, on peut avoir des moments de tristesse, mais le Seigneur nous appelle à être joyeux, le Seigneur nous appelle à être lumière, le Seigneur nous appelle à être sel de la terre. Mais comment être sel et lumière si nous ne sommes pas attachés à celui qui donne la saveur, à celui qui est lumière du monde? Rempli de lui. Quand il était là, on pouvait être d'accord ou pas, mais on réalisait qu'il y avait quand même une différence avec les autres. C'est cette différence-là qu'il aimerait nous voir manifester. Qu'on soit d'accord avec nous ou non, on doit sentir qu'en nous, il y a autre chose. Il y a autre chose qui n'est pas du domaine normal. Quand tout le monde a peur, peut-être qu'ils ne sont pas cette intelligence, c'est la différence. Mais cette paix-là, fais ce que tu veux, si elle n'est même pas de Dieu, tu ne l'auras pas. Pour préparer le retour du Seigneur, je dirais que c'est simple. Pourquoi est-ce que c'est simple? C'est rester attaché au Seigneur. Si le Seigneur avait demandé de courir en marathon, moi, le premier, je serais qualifié. Ce qu'il me demande. Ma croix et que je le suive. Je confesse, ce n'est pas toujours facile, mais nous comptons tous sur la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, personne n'arriverait. Voilà pourquoi est-ce que nous avons un Dieu qui est grand. Il connaît nos défis. Il connaît nos défis. Et il a donné son esprit pour que nous puissions aller de l'avant. Le troisième point, c'est s'examiner soi-même. Lorsqu'on parle d'examen, moi je pense souvent au bilan d'entreprise. Et un bilan d'entreprise doit refléter la situation réelle de l'entreprise. Si vous essayez de tricher, déjà, tricher c'est dangereux pour vous-même parce que si vous jouez pendant longtemps, vous allez vous retrouver en situation de faillite. Vous n'aurez jamais vu ce qui n'allait pas, parce que vous avez masqué les choses. Ça, c'est un point, c'est toi pour votre entreprise. Deuxième point pour votre entreprise, ce sont les impôts. Si les impôts réalisent ce que vous avez triché, ça fait très très mal. Si vous ne voulez pas avoir affaire aux impôts, payez. Votre examen soit juste et soit fidèle. Cet examen-là, ce n'est pas quelqu'un, ok, il y a des experts comptables, ok, merci Félix. Mais Félix sait très bien qu'à un moment donné, il passera devant l'expert comptable qui va passer à la loupe tout ce qui aura été fait. Donc, il pourra être cauchemar, ce n'est pas grave. Mais lorsqu'il ira devant l'expert comptable, il aura la conscience. Pourquoi en amont cet examen a été fidèle, juste, pas de dissimulation. Et la parole ne me dit pas d'aller regarder ce que fait Wilson. La parole me dit Thierry, toi-même. Pourquoi? Moi-même. Parce que personne, en dehors de Dieu, ne lit ma pensée. Merci Seigneur. Oh, oui, c'est moi qui n'entends rien, mais bon, merci Seigneur. Non, personne en dehors du Seigneur ne connaît mes pensées. Cette pensée doit être examinée au regard de la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, on peut dire après, oui, Seigneur, ok, moi je n'ai rien vu. Alors, comme David, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, et regarde si je suis une mauvaise voie. Maintenant, quand on commence à se dire, oh Seigneur, sonde-moi, et puis bon, c'est non. Toi-même d'abord. Le Saint-Esprit, avec qui tu veux faire un examen authentique, honnête, le Saint-Esprit qui aidera. Certains savent de quoi je parle. Parce que le Seigneur, lorsque le Seigneur te reprend, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour ton bien. Pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants, on reprend un enfant, c'est jamais forcément par plaisir. C'est parce qu'on arrive à voir plus loin, on essaie de regarder plus loin que lui, mais lui ne sait pas l'enfant. Lorsque le Seigneur nous reprend, ce n'est jamais pour nous détruire, c'est pour le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3, 5, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous. Dans Romains 13, 12 à 14, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais remettez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, juste une remarque rapide. Il a dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. La raison, c'est pour en satisfaire. Il n'a pas dit, n'ayez pas soin de la chair, et puis s'arrêter là. C'est pour en satisfaire, pour ne pas satisfaire ses désirs, ses convoitises. Alors, lorsque nous faisons cet examen-là, il était quand même d'être capable de dire, Seigneur, je veux vraiment te suivre. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Parfois, c'est compliqué. Seigneur, j'ai peut-être péché. Mais dans 1 Jean 8, 9, il nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Où est la condamnation? Où est la condamnation? Dans son amour. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Nous vivons une période compliquée. Il y a encore quelques mois, entre le président américain et le président nord-coréen, ce n'était pas le grand amour. On se disait, mais ça peut partir d'un instant à l'autre. Vous savez, si c'est le nucléaire qui démarre, les conséquences pendant tout de même. Je crois que Einstein qui disait ceci. On lui avait demandé, est-ce que vous croyez qu'une troisième guerre mondiale est possible? Et il avait dit, je ne sais pas. Par contre, je suis sûr qu'une troisième guerre mondiale, la quatrième va se faire au lance-pierre. Le monde, avec tout ce qu'on a accumulé comme armes, si ça démarre, ça peut faire très mal. Mais le
Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez entendre des bruits de guerre, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il est de plus? Que le président Trump s'énerve contre le. Attends, imaginons, mais on ne pense pas. Contre le président Macron, il est au genou balancé, voilà, des bombes sur la tête. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi, comment ne pas s'inquiéter alors que tout le monde peut se s'inquiéter? C'est la présence de Dieu, simplement. C'est vivre cette présence de Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oh, Seigneur, c'est peut-être compliqué. Mais tu dis, c'est possible. En vivant dans la présence du Seigneur. Tout est lié à vous. Le vrai amour. Parce que nous-mêmes, vis-à-vis de lui, nous étions ses ennemis. Mais il nous a aimés avant. Alors que nous étions ses ennemis. Voilà pourquoi il est capable de nous donner la force d'aimer même ceux que nous ne pouvons pas aimer de manière naturelle. Comment faire la différence avec le monde? Si ceux qui sont rejetés, nous les rejetons aussi. Il y a quelque chose que je me dis toujours, Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous savez, il y a comme ça des personnes dans l'Église qui font le travail de l'ombre. Qui vont rencontrer des prostituées qui vont dans la rue. Et moi, je dis, Seigneur, donne un jour que ces dames viennent. Que l'Église puisse les accueillir parce que Jésus lui-même les a accueillis. Comment voulons-nous faire la différence? Le Seigneur revient bientôt. Et le monde a besoin de l'entendre. Hier, je regardais un peu ce qui se passait dans Paris et il y a des choses qui m'ont frappé de voir des retraités dans la rue. Il y a une personne qui s'est mise à parler. Elle s'embrouille, j'ai dit, waouh, c'est dur. Dans le désespoir, nous sommes appelés à porter l'espérance du message que je suis. Nous sommes appelés à montrer au monde qu'il y a une autre voie. Et la seule voie, la voie du salut. Est-ce que l'Église est prête? Merci pour vos prières, c'est vrai, on en a besoin dans les décisions que nous devons prendre. Mais le plus important, c'est ce que chaque vit avec le Seigneur. Alors moi, je suis convaincu que dans ce que chacun vient avec le Seigneur vous inspirera en disant, mais voilà, il y a Thierry qui va à la réunion, et pour lui, pour telle décision. Moi, je suis convaincu. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais nous avons besoin de vos prières. Le Seigneur dit, la seule façon de pouvoir résister, c'est de veiller et de prier. Veiller et prier, car vous ne savez pas. Qu'est-ce qui va revenir? Quand il reviendra, ce sera simplement une simple question. Ami ou ennemi? Quand il reviendra, ce sera un événement que le monde n'aura jamais vécu. En un instant. Je bénis le Seigneur. Parce que je bénis le Seigneur. Ta parole est ma sécurité. Quand je lis la parole de Dieu, je bénis le Seigneur. Elle n'est pas là pour me faire peur. Bien au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, chacun d'entre nous doit être dans l'assurance que quoi qu'il arrive, je sais où je suis. Quoi qu'il arrive, Je sais qui je suis. Pour
la fin. Dans Apocalypse 22, verset 21. Celui qui atteste ces choses dit, lui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, tu as dit que tu partais préparer une place, Seigneur, pour chacun, pour tous ceux, Seigneur, pour tes élus. Et Seigneur, tu as dit que pour cela, tu reviendras chercher ton Église. Seigneur, donne-nous d'être de ceux, Seigneur, qui sont en paix avec toi. Seigneur, moi, je te prie. Seigneur, tu connais la vie de chacun. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de condamnation, mais c'est un jour de grâce. Le jour de grâce où, Seigneur, tu veux fortifier, reprendre pour le salut, où tu veux, Seigneur, nous donner à chacun d'aller plus loin avec toi. Seigneur, je te prie. Pour l'unité, Seigneur, de ton Église. Comme toi-même, tu as prié le Père. Je te prie pour que nous soyons un par ton esprit. Seigneur, les défis qu'il y a devant nous, les défis de l'Église dans ce monde où les gens ont besoin d'entendre ton nom, ont besoin, Seigneur, de connaître la vérité, que nous soyons, Seigneur, cette Église. Que nous soyons cette Église où, Seigneur, ta présence est manifeste, où ta sainteté, Seigneur, est manifeste, où, Seigneur, ton amour est manifeste, Seigneur. Viens, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Chacun là où il est, au stade où il est, Seigneur, tu ne méprises pas les petits commencements. Donne-nous, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur. Que cette Église, Seigneur, que l'Épi soit reconnue comme l'Église aimant Jésus, comme l'Église marchant avec Jésus. Que l'Épi soit reconnue comme cette Église qui accueille les plus démunis. Cette Église qui accueille les perdus au nom de Jésus. Seigneur, te prions aussi pour la situation actuelle de la France. Seigneur, il y a des choses qui se passent. Mais Seigneur, comme il est dit dans 1 Timothée, de prier pour les autorités, afin que nous vivions en paix. Seigneur, toi, tu restes souverain. Et Seigneur, te prions afin que tu accordes, Seigneur, au président, au gouvernement, Seigneur, aux députés, aux sénateurs, aux préfets, aux maires, à tous ceux qui sont en situation d'autorité, cette sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, tu connais aussi le désespoir des uns et des autres. Seigneur, tu es la solution. Te prions, Père, que tu donnes, que tu suscites, Seigneur, même dans ce groupe, des personnes qui te connaissent, qui puissent porter ce message de réconfort, qui puisse apporter, Seigneur, le message du salut, qui puisse apporter, Seigneur, ce message d'espoir, alors que tout semble noir, alors que tout semble aller dans le mauvais sens, tu es celui qui redresse. Tu as dit, Seigneur, si mon peuple, ce qui a été invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, se détourne de mauvais droits, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Alors, Seigneur, guéris notre pays. Guéris.